Le grand, le divin miracle de la radio nous offre l'opportunité de vous parler à l'antenne.
Ça y est, le contact est établi.
Qui êtes-vous ?
Un instant, je vous prie.
D'accord.
Détendez-vous et répondez aussi simplement que possible.
Votre nom, s'il vous plaît ?
Cinérama.
Je le savais.
Mais attendez, mais qu'est-ce que ça signifie ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Vous imaginez ça ? Vous voyez le tableau ?
Le public va en raffoler.
Bonjour et bienvenue à Cinérama où aujourd'hui eh bien, nous allons parler de trois films qui sortent ce mercredi 15 avril. Et un des premiers films, Marine, c'est une comédie et française.
Oui, c'est Robin des Bois de Anthony Marciano dont je vais vous parler aujourd'hui. Et alors dans un tout autre registre, je vais vous parler de L'Astragale de Brigitte Sy.
Et puis eh bien, les deux autres films qui sortent ce mercredi 15 avril, c'est En équilibre de Denis Darcourt avec Albert Dupontel et Cécile de France. On écoutera d'ailleurs le réalisateur Denis Darcourt que j'ai pu rencontrer la semaine passée. Et puis j'ai pu voir aussi Taxi Téhéran, dernier film de Jafar Pahani qui a remporté l'Ours d'Or à Berlin. Et toi Manu ?
Je vais vous parler de films qui sont déjà sortis la semaine dernière, dont Lost Driver de Ryan Gosling et Dark Places.
C'est Cinérama qui débute avec Robin des Bois.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, je vous dis. Et même saloperie, hein.
Oubliez tout ce que vous savez sur Robin des Bois, le nouveau film de Anthony Marciano se charge de rétablir l'histoire. Loin de voler aux riches pour donner aux pauvres, Robin a de vraies valeurs, davantage ancrées dans les réalités économiques de Sherwood. Il ne vole que les faibles, les femmes, les handicapés et les enfants pour se donner à lui-même. Aidé de son acolyte qui souffre d'un léger problème de persécution, en même temps c'est normal, il est arabe, juif et homo, il réalise de petits vols crapuleux jusqu'au jour où, suite à un enchaînement de malentendus, on le prend pour un héros. La légende de Robin des Bois est en marche, aidé du gang de Sherwood, équivalent moyenâgeux des syndicalistes de notre époque, il décide de dérober tout l'argent des impôts au shérif, qui en plus d'être très méchant et cannibale, à la tête de Gérard Darmon. Alors après Les Gamins, il y a 3 ans, comédie française réussie, enfin je pense, qui louchait vers la bromance américaine de type Jude Apatow, le duo Anthony Marciano-Max Boublil se reforme. Disons-le de suite, hein, le film qui sort aujourd'hui aura sans doute mauvaise presse, mais j'aimerais tout de même prendre sa défense. Robin des Bois est de l'ordre du plaisir, coupable, on ne vous demande rien d'autre que de laisser votre cerveau à l'entrée et d'émettre des rires gras pendant 1h30. Alors oui, au vu de la mise en scène simpliste mais dotée d'un rythme qui ne faiblit jamais, ce Robin des Bois aurait sans doute mérité d'être une simple parodie de 20 minutes destinée à YouTube. Mais il faut admettre qu'il est rare et donc plaisant de voir une comédie française qui n'a d'autre ambition que de faire rire. Parce que entre les grosses productions avec un casting de has-been qui ne vous arrache même pas un sourire, Fabien Antaniente, c'est à toi que je pense, les comédies faussement sociales et vraiment démagos à la « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» ou les comédies pleines de bons sentiments qui ressemblent à des téléfilms mais se prennent pour des chefs-d'œuvre de type intouchable, eh bien on a probablement oublié l'essence même de la comédie, le rire. Dans ce Robin des Bois, l'humour est bête et méchant, c'est scato, lourd, potache, redondant, mais au moins, on rigole. Belle Marianne est en fait moche, Robin des Bois n'a pour autre ambition que de s'acheter un bar à pute, Harry Habitant incarne un rebelle à la laine fétide, et Gérard Darmon a l'air de beaucoup s'amuser dans ce film qui ne prend pas les spectateurs pour des cons puisqu'il revendique haut et fort d'être lui-même d'une stupidité sans borne. Reste que le scénario est finalement mieux ficelé que dans beaucoup de films, que l'on ne s'ennuie jamais et que les acteurs sont bien meilleurs que dans beaucoup de comédies supposément hilarantes. Donc allez le voir sans le dire à personne, vous allez bien vous marrer.
Alors, moi, j'ai trouvé les acteurs, Darmon est effectivement excellent, Habitant fait du classique, mais Darmon, le personnage de Darmon est vraiment très bon. Après, je trouve que les autres acteurs ne sont pas forcément exceptionnels. Boublil, ça va, mais
disons qu'ils jouent ce qu'ils savent le mieux faire, en fait. Hein. Ils ne se réinventent pas vraiment. Enfin, c'est vrai qu'on n'a pas des comédiens d'une trempe extraordinaire non plus.
Ce que tu dis, effectivement, sur ça aurait pu faire... une séquence sur YouTube, effectivement, on est dans ce côté-là un peu, on la joue sketch, voilà.
Oui,
plus que cinéma, selon moi. Et c'est pas étonnant, d'ailleurs, qu'on voit eh bien, les deux acolytes du petit journal, je sais plus comment ils s'appellent, mais qu'on voit dans le petit journal et qui jouent un rôle pareil, un peu débile qu'ils ont dans le petit journal. Bref, donc des gens qui viennent de la télé, qui viennent d'Internet et qui se retrouvent au cinéma. Et finalement, très peu de gens de cinéma, j'ai l'impression, dans le casting.
C'est vrai qu'après l'envergure cinématographique du film reste quand même très humble. Hein. À mon avis, c'est un film qui ne se prend pas pour autre chose que ce qu'il est. Une petite comédie vraiment sans aucune prétention.
Mais ça va sur les traces des nuls, en fait, j'ai l'impression, mais en plus gras quand même.
C'est beaucoup
plus gras et beaucoup plus outrancier.
C'est très scato.
Voilà. Donc c'est Robin des Bois qui va passer dans de nombreux
qui sort aujourd'hui.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule.
Cinérama.
Je suis allergique.
Bah passons à un film nettement moins drôle, hein, Lost Driver de Ryan Gosling. Alors après Ben Affleck, James Franco, Angelina Jolie, George Clooney et puis tant d'autres, c'est au tour de l'icône Ryan Gosling de passer à la réalisation avec un projet pour le moins insolite. Alors ses rencontres avec Nicolas Winding Refn sur Drive et Only God Forgives, mais aussi avec Derek Cianfiance sur Blue Valentine et The Place Beyond the Pine, ont été décisifs pour casser l'image de Playboy un peu insipide qu'il traînait jusqu'alors. Alors le passage derrière la caméra pour un film indépendant à tendance expérimentale ne fait que confirmer la volonté de l'acteur de se marginaliser, de creuser un sillon hors Hollywood. Alors la première bonne surprise de Lost River est de tourner le dos au naturalisme chichiteux qui est un peu l'apanage du cinéma indépendant de ces dernières années sous influence malique, parfait prototype pour aller frimer dans des festivals style Sundance. Alors Lost River ne ressemble à rien, enfin pas à rien, à rien de précis. L'influence de Refn est évidemment très prégnante, mais Gosling tente néanmoins des greffes surprenantes et surtout ne cherche pas à raconter une histoire précise et linéaire. Alors résumé de l'intrigue de cet ovni tient vraiment du casse-tête chinois, mais je vais quand même essayer. Alors dans une ville à l'abandon, une mère de famille élève tant bien que mal ses deux enfants. Pour faire face à ses dettes élevées, elle est entraînée dans le monde interlope de la nuit et accepte un étrange job dans un cabaret qui pratique le grand guignol, tout droit sorti d'un film de David Lynch, alors Lost Highway en tête, hein, modèle évident. Alors trop peut-être d'ailleurs. Alors en parallèle, son fils aîné découvre une cité secrète au fond d'un lac. Une jeune fille raconte d'étranges histoires de malédiction. Un chauffeur de taxi qui semble s'être échappé de l'univers d'un Jarmusch ou d'un Wenders. Un banquier tordu est adepte d'étranges pratiques dans le cabaret. Et un voyou complètement à la ramasse hurle sous la lune. Alors Ryan Gosling articule des bribes de récits comme des esquisses picturales sans jamais nous donner les clés en main. Lui-même, parfois, ne doit pas savoir exactement ce qu'il fait, poussé juste par une pulsion créatrice qui alterne des instants de pure beauté plastique avec aussi des facilités esthétisantes à la lisière du clip vidéo. Alors, on écoute un petit extrait de la BO très important dans ce type de film. Parfois écrasé par ses multiples références pas toujours bien digérées et affecté par un formalisme arty un peu autiste, Lost Driver irrite, fascine, déroute et trouve quand même sa pleine justification dans toutes les scènes du cabaret où les intentions de l'auteur sont les plus frontales et osées. Alors ce cauchemar pelliculé renvoie directement au cinéma baroque italien des années 60-70. Les couleurs saturées, les cadrages sophistiqués, les personnages ou plutôt les silhouettes pittoresques, les fausses scènes sanglantes érotisées et les décors expressionnistes évoquent le cinéma de Mario Bava et de Dario Argento. Alors on pense en vrac à Six femmes pour l'assassin, Lisa et le diable, Suspiria et Inferno. Alors ces références apportent une substance à ce drôle d'objet qui est une sorte de cauchemar éveillé, de rêverie surréaliste, peuplée de fantômes et de figures insolites. Alors tout n'est pas parfait dans Lost River, mais Gosling possède un univers, une culture et un regard pour le moins singulier. La plus belle idée, et la plus émouvante aussi, la plus secrète à mon avis, du film est d'avoir proposé à Barbara Steele de jouer cette grand-mère muette et endeuillée, vestige d'un passé perdu. Elle fut l'icône du cinéma gothique des années 60, hein, transcendant par sa plastique énigmatique et son regard perçant des films qui ne seraient pas aussi envoûtants sans sa présence. Alors quelque part, Gosling s'identifie à cette beauté perdue et nous révèle un peu de lui, de ses angoisses, de sa mélancolie. Et puis, une fois encore, hein, Christina Hendricks, que j'ai vue aussi dans Dark Places, que je vais chroniquer tout à l'heure, elle est absolument parfaite. Alors, elle incarne le même rôle que dans l'autre film, mais je ne connaissais pas cette actrice, mais elle m'a particulièrement impressionné. Alors, en gros, un premier film que je trouve prometteur, imparfait, brouillon, mais assez libre et constamment inventif, du moins sur le plan visuel. Voilà.
Merci, Manu. C'était parfait. Et on va passer maintenant à l'interview de ce cinérama, celle de Denis Darcourt.
Qui êtes-vous ?
Cinérama.
J'ai pas très bien saisi.
Chronique, invité et nouvelle du 7e art.
Tu comprends ce que je veux dire ?
Et nous allons parler de En équilibre, donc de Denis Darcourt, un film avec Albert Dupontel et Cécile de France. Donc il y a Marc qui est cascadeur équestre. Il est victime d'un grave accident sur un tournage qui lui fait perdre tout espoir de remonter un jour à cheval. Et puis il y a Florence, donc interprétée par Cécile de France, qui est chargée par la compagnie d'assurance de s'occuper du dossier de cet homme brisé. Autrement dit, de faire perdre un minimum d'argent à la compagnie. Il faut quand même le dire. Alors cette brève rencontre va bouleverser leur équilibre. Marc pense que dans la vie, on fait toujours ce qu'on veut. Florence pense qu'elle aurait dû peut-être continuer le piano plutôt que de baigner dans le monde des assurances. Et la normalité s'oppose à la force de ce Marc qui, malgré sa paraplégie, eh bien, ne se résigne jamais. J'ai pu rencontrer Denis Darcourt. Il était à Strasbourg pour présenter son film En équilibre et il nous en parle.
Monsieur Guermont, vous avez refusé notre proposition. 250 000 euros. C'est une grosse somme.
Vous me demandez d'accepter sans réfléchir. Écoutez, j'ai perdu mes jambes, mais pas ma tête. Alors vous direz à votre compagnie d'arrêter de me prendre pour un con.
Alors c'est un film que vous avez adapté donc, d'un récit de Bernard Saxé. C'est son histoire. Ce qui serait intéressant, c'est de savoir finalement ce que vous avez pris et ce que vous avez écrit vous-même.
C'est un récit bon, véridique de ce qui lui est arrivé. C'est-à-dire il était cachetonneur, comme moi j'étais cachetonneur en musique, il était cachetonneur en cascade. Et puis un jour... une cascade a mal tourné, le cheval lui a marché dessus, il est devenu paraplégique et il est remonté contre ce que pensaient les médecins puisqu'ils étaient absolument persuadés que jamais il pourrait remonter. Et puis 6 mois après, il était champion de France de dressage et il a fait les Jeux para-olympiques plusieurs fois. La matière de cinéma, il fallait l'inventer, donc on a inventé une rencontre avec un autre personnage, alors qui est complètement inventé, qui est le personnage joué par Cécile de France, qui est le personnage de l'assureuse. Et maintenant, le film, c'est presque plus son histoire à elle que son histoire à lui. Mais dans ce sens, c'est une invention totale. Mais sans le personnage de Bernard, qui en plus, il se trouve que c'est lui qui a coaché Albert, qui était tout le temps là sur le tournage, sans, il n'y aurait évidemment pas de film.
Vous êtes en fauteuil. Vous ne remonterez jamais à cheval.
C'est moi et moi seul qui décide si un jour je vais remonter à cheval.
Ça va, vous êtes bien amusé?
Oui. Vous connaissez un petit peu en chevaux?
Non, pas du tout.
Vous n'avez pas peur, moi?
Non, non.
Il rencontre sa gestionnaire de sinistre, Cécile de France, et qui, elle, n'a jamais fait de cheval. Et puis, il y a cette scène... absolument incroyable où elle monte sur le cheval et lui prend une... On a l'impression quand même un malin plaisir à la mettre en difficulté.
C'est vraiment un déclic dans le film. C'était, pendant longtemps au montage, c'était le démarrage du film. Malheureusement, le film démarrait très tard, donc on a fait en sorte qu'il démarre plus tôt. Mais oui, c'était une scène très importante. Ouais, il prend du plaisir. On disait que c'était la scène sadomaso, parce qu'en fait, c'est elle qui vient pour le torturer, et en fait, c'est lui qui la torture.
Elle vient lui dire, en gros, vous n'aurez pas tout l'argent que vous espériez. Donc on a l'impression que c'est elle le personnage fort, mais tout ça bascule en fait, ça c'est le film.
Elle travaille pour des gens qui sont un peu sans scrupules, d'une compagnie sans scrupules, et voilà, il l'oblige à revenir sur son passé, sur son travail, sur ses raisons de vivre. Et du coup, c'est vrai que c'est amusant, parce qu'il y a des tas de gens qui sortent du film en disant « ce film me fait repenser, est-ce que je fais le bon métier ?» Donc je dis « changez pas de métier quand même !» À cause de moi ou à cause du film.
Très bien.
Arrêtez.
Vous vous décontractez, sinon c'est la catastrophe. Vous jouez du piano?
Mais en fait, j'aurais dû être professionnelle. De toute façon, il y a eu un concours que j'ai pas réussi et ça m'a fait comprendre que j'étais pas faite pour ça.
Vous avez arrêté la musique parce que vous avez arrêté un concours?
Non, on fait pas forcément ce qu'on veut dans la vie.
Si.
Alors on a l'impression qu'aussi en équilibre oppose la normalité. Avec, alors il y a une expression qui revient souvent, les risques inconsidérés. Et effectivement, bon, on voit que le personnage d'Albert Dupontel, lui, même s'il est paraplégique, il a envie de remonter sur son cheval. Et on imagine, enfin, en tout cas, on voit qu'il essaie de le faire, donc pourquoi pas, il devrait y arriver. Et puis Cécile de France qui, elle, a abandonné le piano, finalement, elle est, on la voit, elle est dans quelque chose de très normatif.
Elle, c'est moi, c'est nous, c'est le monde normal. C'est lui qui est pas normal, quoi, qui est Et c'était amusant d'en faire une personne normale. C'est très difficile parce que c'est plus facile à l'écran de montrer un univers anormal, de montrer des châteaux, des grands personnages, des trucs. Et montrer un appartement normal, des costumes normaux d'une vie normale, c'est très difficile au cinéma, en fait, contrairement à ce qu'on croit. Mais c'était ce qui était intéressant, voir le parcours d'une femme normale.
Vous saviez qu'ils allaient laisser trop mon cheval ?
Je suis désolée, j'ai rien pu faire.
Il y a quelque chose qui est aussi frappant, c'est la tonalité. Alors là, on parle de l'image que vous donnez à votre film. C'est-à-dire que c'est même les inscriptions, on commence avec des lettres dorées, et puis c'est baigné par une lumière assez jaune. Et finalement, se dégage en équilibre une certaine forme de douceur. Et
alors ça, c'est fait totalement exprès. C'est-à-dire toutes les couleurs du film, tout est justement, parce que le propos est très, très dur. Hein, le propos est dur. Donc il fallait que la lumière, que tout soit beau, agréable, il fallait que le film soit agréable à regarder. Oui. C'était presque une demande des distributeurs, des producteurs on veut faire j'aime bien c'était un film qui a qui veut être populaire. La vie est dure, quoi. Les gens ils payent parfois 10 euros pour aller au cinéma, ils donnent de leur temps. J'ai pas envie de les punir en plus, quoi. Donc, je les ai beaucoup punis avec des films précédents, mais là, on va être plus gentil. Voilà.
Et vous, Florence, paraît que vous êtes dans les assurances ?
Mais pas du tout, vous n'avez pas les assurances. Elle est pianiste.
Voilà, c'était Denis Dercourt, le réalisateur de En Équilibre, qui a fait un film plutôt classique. Hein. Il le dit lui-même, il n'a pas voulu vraiment embêter les spectateurs, hein. Il n'a pas voulu les remuer. Donc effectivement, comme je le disais dans cette interview, la lumière est volontiers jaunie. C'est très, très doux, très classique. En revanche, Albert Dupontel joue très très bien et Cécile de France est particulièrement lumineuse. Ça vaut au moins ce film pour ces deux acteurs. En tout cas, ça sort ce mercredi 15 avril. On retrouve maintenant l'Astragale dans Cinérama.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
Oui, on poursuit donc avec l'Astragale de Brigitte Si. Alors, l'Astragale, c'est ce petit os du pied qu'Albertine Sarrazin se casse en sautant par-dessus le mur de sa prison pour s'évader. Elle n'a même pas 20 ans et purge sa peine pour un braquage qui a mal tourné. Julien la trouve sur le bord de la route et pris de pitié, il la recueille, la cache et ne tarde pas à lui inspirer un amour passionnel. Mais Julien est aussi un criminel et Albertine découvre avec lui non seulement l'amour fou, mais également la douleur de l'attente perpétuelle. Traquée par la police, en fuite à Paris, elle écrit pour son amant des lettres sans jamais lui envoyer et se prostitue en se cachant d'hôtel en hôtel.
Alors, qu'est-ce qu'on disait ? T'étais où avant d'arriver à Paris ?
À Lyon.
Ah, à Lyon. Et à Paris, t'as rencontré une fille qui t'a dit de venir ici ?
Ouais, dans un bal, pas loin, sur le boulevard.
Et vous avez sympathisé ?
C'est exactement ça. On a sympathisé.
Moi aussi, j'aimerais bien sympathiser avec toi.
Pourquoi pas ?
Bon, monsieur ? Toi, quand t'auras un peu de fric, t'iras te faire réparer les radis.
T'as raison, j'en parlerai à mon cheval.
Et la clé ?
Merci.
L'Astragale est initialement un roman autobiographique d'Albertine Sarrazin qui vécut réellement cette histoire d'amour compliquée et prouva une vie d'errance et de marginalisation et connut un succès quasi posthume. On est frappé de plein fouet par la modernité de ce personnage de femme qui pourrait être née dans les années 2000. Le roman et le film donc abordent tout à la fois l'émancipation féminine, l'amour libre et la bisexualité. Le personnage central, à la fois très entier et protéiforme, est une incarnation rétro du féminisme en même temps qu'une figure sans âge de l'amour tragique et passionnel. Leila Bekhti, que l'on a découverte dans Mauvaise foi de Roche Dizem et Un prophète de Audiard, trouve sans doute ici le meilleur rôle de son début de carrière. À ses côtés, l'excellent Reda Kateb en voyou gentleman forme avec elle un couple à la Bonnie and Clyde qui traverse un Paris mélancolique filmé à la perfection. Alors, un film français en noir et blanc se déroulant à Paris, est-ce qu'il ne manquerait pas Louis Garrel pour que le tableau soit parfait ? Eh bien, vous n'allez pas me croire, il surgit le temps d'une scène. On croirait presque un gag, hein, mais non, non, non. D'autant que sa sœur Esther Garrel, donc, qui n'a d'intérêt d'ailleurs que son nom de famille, tient elle aussi un rôle dans ce film très familial. Il n'y a pas de hasard puisque Brigitte Si, réalisatrice du film, à défaut d'être la sœur de Omar Si, est en fait la mère de Esther et Louis, qu'elle a eu avec Philippe Garrel, pour qui elle a été actrice. Je ne sais pas si vous suivez. Voilà, donc c'est en tout cas un très beau portrait de femme forte, qui s'abîme et qui ne se bride jamais. Un film dont la justesse et la pudeur le rendent vraiment fascinant, émouvant, intemporel. Moi, je le conseille. C'est très très beau sur tous les plans, sur le fond et sur la forme. Et Leïla Bekhti, alors il est encore un peu trop tôt pour le dire, mais vraiment je pense que pour les prochains Césars, elle pourrait avoir le César de la meilleure actrice pour ce rôle parce qu'elle est vraiment incroyable. Elle est de tous les plans et elle est incroyable.
Merci Marine. On retrouve maintenant un tout autre film, puisque c'est un film tourné à Téhéran et dans la clandestinité.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
Taxi Téhéran de Jafar Panahi. Alors c'est un taxi dans les rues de Téhéran, un taxi un peu particulier, hein, déjà parce qu'il est équipé d'une caméra et puis aussi parce que son conducteur n'est pas un conducteur aguerri, connaissant les moindres places, rues et boulevards de Téhéran. Il connaît mal la ville, se fait même moquer par les clients qui l'embarquent, mais il arrive aussi que certains d'ailleurs le reconnaissent. Jafar Panahi lui-même, le réalisateur du film qu'on est en train de voir, interprétant son propre rôle. Nous voilà embarqués donc dans un road movie aux allures exclusivement citadines. Fini le temps où avec Kiarostami, un des maîtres du cinéma iranien, eh bien, filait à travers les oliviers. Que voyons-nous ? Un documentaire, une fiction ? Le réalisateur s'amuse avec cette frontière en laissant planer le doute. À entendre le dialogue entre les deux premiers clients, un macho partisan de la manière forte hein, pour régler la question de la criminalité, et puis une femme à l'arrière du taxi, une femme aux idées progressistes qui ne se démontent jamais, eh bien on ne sait pas vraiment de quoi est fait Taxi Téhéran, un film tourné. Alors, dans la clandestinité, oui sûrement, mais sont-ils des acteurs, sont-ils des gens de la rue dans leur diversité ? Les mises en abîme bordent cet exercice de style qui interroge autant les moyens du cinéma que la société iranienne. La méthode est habile car autant de courses, autant de profils sociologiques, de quartiers traversés, autant de dialogues, de confrontations, femmes, hommes, couples, progressistes, traditionnels. Voilà la matière d'une histoire, voilà une des matières donc, du cinéma. Mais Taxi Téhéran raconte autre chose. Le questionnement initial sur comment punir un voleur ne cesse jamais de revenir. Hein. C'est le fameux dialogue d'ouverture donc, filmé en plan séquence. Un plan séquence assez impressionnant quand même. Donc il y a plusieurs séquences qui nous ramènent à un questionnement moral auquel le cinéma n'échappe pas quand on apprend les codes de la bienséance du cinéma officiel enseigné à la nièce du réalisateur hein, qui monte elle aussi dans ce taxi. Notamment le code de la bienséance c'est que tous les films tournés en Iran doivent être en conformité avec la morale islamique. Donc c'est tout un programme et il en est question hein, dans ce film. Et quand on sait que Panahi est interdit de diffusion en Iran, qu'il a été emprisonné, violenté et qu'il est constamment surveillé lui et sa famille et qu'il tourne en fait dans la clandestinité, ce questionnement hein, sur le vol prend une autre tournure puisque le réalisateur est précisément en train de voler des images. Hein. Mais comme il est question, comme il en est question dans un dialogue, que peut-on faire un voleur qui vole par nécessité ? Parce qu'il est bien question de ça, c'est que Jafar Panahi n'arrête pas de tourner des films. C'est pas parce qu'on lui interdit de tourner qu'il arrête. Alors au-delà de sa forme, qui favorise des plans statiques, on voit soit la route, soit les passagers, soit les conducteurs. Taxi Téhéran se révèle surtout par son ton. Jafar Panahi évoque bien évidemment sa situation, mais toujours habilement, entre légèreté et amusement. Taxi Téhéran pose aussi un regard sur la société iranienne en confrontant différents individus emblématiques. Il y a le voleur, l'institutrice progressiste, la femme au foyer traditionnaliste, le trafiquant de biens culturels, l'avocate qui est plutôt du côté des droits de l'homme. Bref, c'est une plutôt belle réussite. Il a été couronné à Berlin avec l'Ours d'Or, avec un jury présidé par Darren Aronofsky, ce qui est assez finalement étonnant. Et puis, il faut savoir que le réalisateur n'a pas pu aller chercher son trophée. C'est sa nièce qu'on voit dans ce film qui est allée chercher le trophée, l'ours.
Tu parlais d'Abbas Kiarostami, il avait réalisé un film assez similaire en 2002 qui s'appelait Ten, qui était 10 plans séquences à l'intérieur d'une voiture. Et c'était un film assez conceptuel, assez étrange.
Alors peut-être mais autorisé celui-ci.
Oui, je pense qu'il était autorisé. Ouais. Quoique, c'est pas si évident.
Je pense que Kiarostami a encore le droit de faire des films. Il a toujours essayé de contourner la censure. Là, Jafar Panahi a été embêté suite aux élections, aux dernières élections. Hein, voilà. Nous allons en terminer avec ce cinérama, avec un film qui a plutôt déçu.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Alors l'auteur de Gone Girl, hein, Le Vent en Poupe, hein, après l'excellent film de David Fincher, c'est un autre de ses romans écrit antérieurement qui fait donc l'adaptation d'une adaptation cinématographique. Alors sorti en France en 2009 sous le titre Les Lieux Sombres, l'histoire de Dark Places est plutôt alléchante sur le papier. En 1985, Libby Day a 8 ans lorsqu'elle assiste au meurtre de sa mère et de ses deux sœurs dans la maison familiale. Alors sous le choc, elle témoigne contre son jeune frère Ben, 16 ans, qui aurait des accointances avec des groupes sataniques. Alors 30 ans plus tard, Libby est une jeune femme perdue et renfermée sur elle-même, vivotant sur les dons que les gens lui ont donnés au cours des années. Un groupe d'enquêteurs, le Kill Club, la contacte pour se replonger au cœur de cette nuit traumatique. Et le doute s'installe dans la tête de Libby. De nouvelles pistes émergent et elle n'est plus si convaincue de la culpabilité de son frère condamné à perpétuité.
Sauve-toi ! Sauve-toi ! Ah ! Elles sont mortes !
Libby, ce que tu vas nous dire est très important. C'est Ben qui a tué ta maman et tes sœurs.
J'avais 8 ans quand elles sont mortes. Tout d'un coup, j'étais célèbre.
Wow, Libby Day.
Allez-y, parlez-moi de ce club.
On l'appelle le Kill Club. C'est simplement un petit groupe qui aime les affaires de meurtres non résolus. Des détectives privés, des juristes, des assureurs, d'anciens flics. On élucide des crimes. C'est notre truc.
Si vous et votre petit club voulez me faire gober que Ben est innocent, vous perdez votre temps.
J'ai apporté le dossier. Vous pourrez le consulter. Vous êtes loin d'être bête, vous verrez vite qu'il y a un truc qui est pas net dans cette affaire.
Ben, Day. Et a bien foutu ma vie en l'air, celui-là.
J'avais 11 ans.
Il voulait qu'on reste tous les deux après la classe.
Bonjour, je cherche un certain Ronald Day.
C'est le moment de dire la vérité sur les meurtres.
Ils sont arrivés à la retrouver, Tiedra.
Vous savez s'il a eu une nana, une histoire sérieuse?
Libby, n'en sais plus sur Diandra Wertner.
Oui? Nom de Dieu, c'est pas vrai. Libby, je me disais bien que tu finirais par me trouver.
Donc, une fois que tu sauras la vérité, tu seras en paix.
Alors, le sujet est solide, hein, matière à nous offrir un bon thriller efficace et prenant, comme Hollywood s'est en confectionné de temps en temps. Mais encore faut-il qu'il y ait derrière ce type de projet un réalisateur à la hauteur. Car n'est pas Fincher qui veut. Aux commandes de cette production américaine, on retrouve donc le français Gilles Paquet-Brenner, l'auteur, enfin si on peut parler d'auteur, Duvet et de Gomez et Tavares. Alors pas vraiment un gage de qualité et le résultat s'en ressent quand même à l'écran. Alors Dark Places, sans être une purge totale, hein, est plombé par une mise en scène maladroite, ne parvenant jamais à nous immerger dans cette histoire sordide et retors. Les allers-retours entre présent et passé sont très mal imbriqués et nuisent constamment à la fluidité du récit. Pire, utiliser le noir et blanc, un noir et blanc d'ailleurs un peu flou et granuleux, pour nous ramener le soir du meurtre est un procédé quand même grotesque, mille fois vu au cinéma, hein, typique finalement des direct-to-video qui sortent à l'appel. Les nombreux rebondissements tombent comme un cheveu sur la soupe, sans que l'on soit jamais surpris ni intrigué. Alors bien sûr, le film se laisse voir, comme on lit d'une traite un roman policier de gare. Techniquement, le réalisateur assure le minimum syndical, mais le spectateur a malheureusement souvent une longueur d'avance sur le déroulement de l'intrigue. Et surtout, Dark Places en reste à la pure illustration d'une histoire pourtant chargée d'un vrai potentiel social et humain, notamment sur la paranoïa non fondée des sectes sataniques durant les années 80. Alors bon, c'est pas vraiment le sujet, mais l'ancrage réaliste d'un thriller qui apporte toujours un fond de crédibilité supplémentaire. Mais je pense que le plus gênant dans ce thriller mou du genou tient en fait à la performance agaçante de Charlize Theron, qui n'en finit plus de casser son côté glamour dans une forme d'autodestruction un peu pénible. Alors dans une veine très Actor Studio, elle peine à convaincre en jeune femme traumatisée, casquette sur la tête, profil bas, démarche antiféminine et regard de chien battu. Alors elle force jusqu'à un point non-retour le naturel de son personnage, au point de rendre complètement artificielle finalement son interprétation. Alors un paradoxe assez courant à Hollywood dans ce type de contre-performance. Face à elle, Chloé Grace Moretz joue très bien la Lolita tête à claque et surtout, bah, encore une fois, Christina Hendricks, vue dans Lost River, qui a le même rôle, est une mère de famille absolument parfaite. Elle est le seul élément touchant d'un film qui laisse quand même un peu de marbre.
Elle va devenir la mère de famille typique.
C'est un peu à craindre. Il faudrait attention à ça.
Et sinon, on va très très vite, mais Fast and Furious, parce que tu as vu aussi un film qui t'a déplu.
Ah oui, alors ça, ouais, qui m'a déplu. Je ne m'attendais pas à un chef-d'œuvre. Hein. Mais j'y suis allé parce que le film est réalisé par James Wan, le réalisateur de Conjuring et de Saw. Et bah, c'est une grosse bouse d'une bêtise totale. Et c'est absolument nullissime.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps.
Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré bon Dieu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Ah bon? Ainsi s'achève Cinérama avec les films finalement les moins bons de cette semaine et de la semaine passée. Et puis la semaine prochaine, eh bien, on ne sait toujours pas de quoi on va parler parce qu'il y a très peu de sorties.
Eh ben oui, à la semaine prochaine.
Et voilà.
À la semaine prochaine.
Surprise!
Cinérama. Il n'y a que des combines. Il n'y a pas de héros. Rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs. Rien que des combines et de la merde. Il n'y a pas de saints. Il n'y a pas de génie. Rien que des combines et des contes de fées. Ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.